Ça a commencé ? L'émission a commencé ?
Debout !
Énorme ! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances ?
Le football, il a changé.
Good morning tour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tours, il est 7h15 et c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Je suis Baptiste Villarmé, à l'antenne avec vous pendant une heure et c'est un plaisir de vous accompagner en ce vendredi 25 octobre. Au programme ce matin, nous débuterons avec le flash info de l'inégalable Théo Leur. Nous allons ensuite poursuivre et accueillir une nouvelle voix, celle de Léo Segura. Il nous parlera du phénomène Brat. David, quant à lui, présentera le Flashport avant une chronique USA toujours de Théo Leur. Pour la première fois en studio avec nous ce matin, Alia Trabelsi nous exposera les réalités de l'impact d'un divorce chez les femmes. Pour ma part, je vais évoquer le monde de la radio et le rapport à notre voix dans une chronique. Invité exceptionnel ce matin, Jean-Rémy Baudot, journaliste à France Info, sera au micro de Lou Attar et de David Alias pour évoquer l'actualité de son association de la presse présidentielle. Avant de terminer sur une touche de légèreté avec Marie-Camille Chauvet, elle nous parlera street art. Vous êtes bien dans Good Morning Tour 99.5 FM, il est 7h17, tout de suite place au Flash Info.
Bonjour Baptiste et bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi 25 octobre 2024. Les recherches s'intensifient pour retrouver Santiago. Le nouveau-né prématuré a été enlevé lundi soir par ses parents dans une maternité à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ils ont ensuite fui en Belgique. Les enquêteurs français et belges se sont extrêmement mobilisés et préoccupés par la santé et même la vie de Santiago, a déclaré hier le procureur de la République de Bobigny, Éric Mattey. S'adressant aux parents, il a lancé cet appel. S'ils m'entendent, ils doivent, pour le bien de leur bébé, le conduire à l'hôpital le plus proche. À l'Assemblée nationale, la gauche et le groupe présidentiel renoncent à certains amendements pour accélérer le débat. C'est ce que les forces politiques ont annoncé hier afin de pouvoir, je cite, « aller jusqu'au vote » sur le texte déjà couperé pour le gouvernement Barnier. Le Nouveau Front Populaire renonce à 270 amendements, a annoncé le président de la commission des finances Éric Coquerel à l'AFP. De son côté, le groupe présidé par Gabriel Attal en supprime une centaine. Il reste quand même plus de 3000 amendements qui doivent être examinés et débattus avant ce soir. Un vote solennel est prévu mardi. La défense civile cesse ses activités au nord de Gaza. Ce service de premier secours a annoncé hier ne plus pouvoir être en mesure de poursuivre ses activités dans le nord du territoire palestinien. Une situation due aux violents combats et aux menaces des forces israéliennes envers les équipes de la défense civile. Sur les réseaux sociaux, la photo d'un véhicule calciné a été postée par Mahmoud Bassal, porte-parole du service de premier secours. Il expliquait qu'il s'agissait du seul véhicule de la défense civile dans le gouvernorat du nord qui avait été pris pour cible par l'armée israélienne à Beit Laya, au nord de Jabalia, près de la frontière avec Israël. Selon ce service de premier secours, au moins 770 personnes ont été tuées dans cette zone depuis le 6 octobre. Face à la pression de l'opinion publique, le Canada change de politique migratoire. Pourtant perçu comme une terre d'accueil pour immigrants, le Canada a annoncé hier une réduction considérable de 21% du quota de résidents permanents. L'immigration est essentielle pour l'avenir du Canada, mais elle doit être contrôlée et durable, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau. Il a également souligné que cette réduction se traduira par une pause dans la croissance de la population au cours des deux prochaines années. En 10 ans, le Canada a en effet vu sa population augmenter de près de 6 millions de personnes. Le président américain va présenter des excuses présidentielles aux Amérindiens. Je cite « J'y vais pour faire quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps, présenter des excuses officielles aux nations indiennes pour la façon dont nous avons traité leurs enfants pendant tant d'années. » Fin de citation, a déclaré hier Joe Biden. Pendant plus d'un siècle, de nombreux enfants amérindiens ont été placés dans des pensionnats. Le but était d'effacer leur culture, leur langue et leur identité afin de les assimiler. Beaucoup d'enfants y ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles, selon un récent rapport gouvernemental.
Merci Théo, c'était le Flash Info du 25 octobre. 7h20 sur Radio Campus, à présent l'heure d'accueillir Léo Segura. C'est la fin d'une période qui a marqué la pop culture cette année. Mercredi, la chanteuse britannique Charlie XCX a clôturé sa tournée américaine intitulée Sweet Tour. Elle met donc un point final au phénomène Brat, popularisé cet été.
Je vous aime tant, je suis très ému.
Mercredi soir, Charlie XCX disait au revoir à son public lors de sa dernière date à Seattle. Connue pour ses tubes Boom Clap, Fancy ou encore Break the Rules, la chanteuse britannique de 32 ans avait sorti en juin dernier Brat, sale gosse en français, un album mêlant pop et dance.
Just like a pack of cigs. Just like a pack of cigs. And like a bit lighter. And like a strappy white top. With no bra.
J'ai entendu parler du Brat Summer, mais qu'est-ce que c'est en fait, Léo, expliquez-nous.
Le Brat Summer, c'est une tendance apparue notamment sur la plateforme TikTok. Elle regroupe des milliers de mèmes, de danses ou même de tenues inspirées de la pochette vert fluo de l'album. C'est un paquet de cigarettes, un bric-à-bic et un débardeur blanc. Voilà comment l'artiste la définissait à la BBC. Le phénomène Brat. C'est aussi des chiffres. Depuis 19 semaines, l'album reste à la première position des charts au Royaume-Uni et conserve sa place dans le top 100 américain.
Et avec un tel succès, la chanteuse a-t-elle voulu tirer la corde ?
Et oui, le 11 octobre, Charlie XCX décide de sortir Brat and It's Completely Different But Also Still Brat. Comprenez Brat et c'est complètement différent mais toujours Brat. Un album remix qui fait office d'épilogue. Elle y reprend ses précédents tubes en collaborant cette fois-ci avec une quinzaine d'artistes différents, dont Billie Eilish, Julian Casablancas, Lorde ou encore Ariana Grande. De sa carrière, la chanteuse a du mal à l'envisager. Je ne vois pas vraiment comment je pourrais innover après cet album, confiait-elle il y a peu. Si l'artiste tire sa révérence, le succès de Brat, lui, est loin d'être terminé.
Merci Léo Segura pour cette première chronique. Je vous propose maintenant une petite pause musicale avec le titre 365 de Charlie XCX.
Keep
C'était 365 de Charlie XCX. Il est 7h26, vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus. C'est l'heure du flashport de David Alias.
On commence avec du football et de la Ligue des Champions où les Lillois sont définitivement devenus les maîtres de Madrid. Après avoir battu le Real de Mbappé 1-0 à Villeneuve-d'Ascq il y a 3 semaines, le LOSC a réédité pareil exploit en renversant l'Atlético de Madrid de Griezmann 3-1 dans la capitale espagnole. Une performance hystérique pour les hommes de Bruno Genesio qui devront confirmer ce week-end en Ligue 1 dans le derby du Nord face à Lens. En Ligue des Champions toujours, les autres clubs français n'ont pas brillé mais n'ont pas perdu. L'AS Monaco s'est tranquillement imposé 5-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade sur sa pelouse. Brest a arraché le nul 1-1 à Leverkusen, champion d'Allemagne en titre. Et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a concédé le nul 1 partout face au leader du championnat hollandais, le PSV Eindhoven. À l'échelon inférieur, les Lyonnais se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse face au club du Turc de Beşiktaş hier soir. Et dans le même temps, les Niçois se sont inclinés face au club hongrois de Ferencvaros sur le même score. Enfin, en football toujours, les Bleus ES rencontrent ce soir la Jamaïque à 21h10 au stade Auguste Bonal à Sochaux. Disputer un match de basket professionnel en compétition officielle avec son fils, c'était son rêve il y a encore quelques mois, c'est désormais la réalité. Mardi soir, la star américaine des Los Angeles Lakers, LeBron James, 39 ans, tout récent champion olympique à Paris, a joué avec son fils Bronny face aux Timberwolves de Minnesota, une première dans l'histoire de la NBA. Père et fils sont entrés ensemble sur le parquet quelques minutes avant la pause, sous les yeux de leur famille, et ont participé à la victoire des Lakers sur les Wolves 110-103 pour la reprise du championnat. Un double champion olympique de volleyball à Tours, ce soir, pour le derby entre le TVB et Poitiers, la star des Bleus Erwin Ngapet, ancien de la maison Tourangelle, reviendra fouler le parquet du Palais des Sports, qui affiche complet pour l'occasion, mais sous les couleurs ennemies des Pictaviens, de quoi ajouter un peu de piquant à ce derby déjà très attendu, et où le TVB, actuellement 10e de MSL, espère se relancer en championnat, coup d'envoi à 20h. Enfin, le traditionnel petit mot sur les équipes de foot de l'EPJTFC. Mardi soir, l'équipe masculine s'est imposée 5-2 à Souvigné pour le compte de la 3e journée de championnat FSGT. Une 3e victoire en autant de matchs qui augure d'une bonne saison pour les journalistes. Le lendemain, l'équipe féminine s'est-elle inclinée à Parcémélé 9-1, mais une défaite lourde mais encourageante, note le coach de l'équipe Arthur Charlier qui insiste sur les progrès effectués défensivement par rapport à la dernière confrontation entre les deux équipes.
Merci David Alias, rendez-vous donc ce soir au Palais des Sports des Tours. Envolons-nous à présent aux États-Unis, à moins de 2 semaines du dénouement des élections présidentielles américaines, Kamala Harris et Donald Trump jettent leur dernière force dans la bataille, mais le candidat des Républicains est vivement critiqué par ses anciens proches. Théo Laure, vous nous en dites plus.
Fasciste, ce sera peut-être le mot de la campagne américaine entre Kamala Harris et Donald Trump. En tout cas, si ce n'est pas le mot de la campagne, c'était au moins celui de la semaine. Le plus souvent, c'est l'ancien président, actuellement candidat, qui l'utilise pour qualifier son adversaire démocrate. À ce qualificatif, il ajoute également ceux de marxiste ou communiste. Des mots communs pour un public français, mais qui font peur aux États-Unis, car ils sont liés à la période de McCarthyisme, connue aussi sous le nom de peur rouge pendant la guerre froide. Mais cette semaine, c'est Donald Trump qui est publiquement qualifié de fasciste.
L'ancien président est souvent critiqué, et qu'est-ce qui explique l'utilisation de cette expression ?
C'est une interview publiée mardi par le New York Times dans laquelle l'ancien directeur de cabinet de Donald Trump à la Maison-Blanche fait des déclarations troublantes. Le général John Kelly, 74 ans, est parvenu à la conclusion que Trump est un fasciste. Il étaye bien sûr ses propos. Je cite, « Il préfère très certainement l'approche dictatoriale dans la manière de gouverner. Il n'a jamais accepté le fait qu'il n'était pas l'homme le plus puissant du monde. Et par le mot puissance, je veux dire la capacité à faire tout ce qu'il voulait au moment où il le voulait. » Fin de citation. Explique celui qui a été limogé donc par Donald Trump en décembre 2018. Le général a également parlé de la fascination du candidat républicain pour le dictateur nazi Adolf Hitler. Une information confirmée dans un article de The Atlantic. Le rédacteur en chef du magazine cite notamment Trump en ces termes. Je cite « J'ai besoin de la sorte de généraux qu'avait Hitler, des gens qui lui étaient totalement loyaux et qui suivaient ses ordres. »
Et dites-moi, quelle est la réaction du camp démocrate ?
Eh bien, dans la dernière ligne droite, Kamala Harris en a forcément profité pour reprendre les déclarations du général Kelly, des propos qui ont d'autant plus de poids qu'ils sont donc tenus par l'un des plus proches collaborateurs du président Trump. sur le plateau de CNN et devant des électeurs indécis de l'État clé de Pennsylvanie, Kamala Harris a affirmé qualifier Donald Trump de fasciste. Je cite « Et je pense que l'on doit faire confiance aux gens qui le connaissent le mieux », a-t-elle ajouté. Elle fait référence ici aux nombreux proches collaborateurs de Donald Trump et le premier d'entre eux, l'ancien vice-président Mike Pence. Tous ont dit que l'ancien président républicain était dangereux pour les États-Unis et qu'il ne devrait pas entrer une nouvelle fois à la Maison-Blanche. À quelques jours maintenant de l'élection, les sondages restent indécis et peinent à départager les deux candidats. Démocrates et républicains sont donc sur le pont. Ils tentent tout pour convaincre les électeurs des swing states afin de rafler la mise. La question de la défense de la démocratie a toujours été présente dans cette campagne. Elle semble aujourd'hui déterminante avant que la majorité des Américains ne vote le 5 novembre prochain.
Merci Théo Leur pour cet éclairage. Alia Trabelsi est à mes côtés en studio pour sa première chronique. Elle est là pour évoquer l'impact du divorce chez les femmes.
Le sentiment d'engagement est étrange, complexe. Il est aussi personnel que passionnel, aussi logique qu'inconscient, et franchement, souvent inexpliqué. Alors quand l'engagement est brisé, évidemment, tout se bouscule. C'est ce qu'ont vécu en 2020 plus de 78 000 couples français, en actant devant un juge leur divorce. Cette disparition d'union est parfois arrangée, mais souvent tragique. Le film « Marriage Story » de Noah Baumbach exprime cette dualité sûrement bien mieux que moi. Une comédie dramatique qui en vient à se demander comment nous, spectateurs, retrouverons goût à l'affection saine une fois sortis de la salle. Mais le divorce, au-delà du drame, ce sont surtout des compromis.
Je garde le chat et toi la télé, sinon je pars aussi avec la machine à laver.
Des compromis personnels, souvent, judiciaires, quelquefois. Ce qui m'a interpellée dans mon observation personnelle, c'est la place de l'argent dans ces situations déjà délicates. L'argent est tabou et le divorce ne fait que le rendre plus périlleux. Pour cause, n'avez-vous jamais entendu, au détour d'une conversation ou d'une émission douteuse, que le divorce était une bénédiction pour les femmes? Que ces dernières n'en partent que les poches plus pleines? L'homme est vu comme le perdant de ce jeu judiciaire, porte-monnaie dépouillée, condamné à payer une prestation compensatoire ou, parfois encore, une pension.
Mais Alia, au-delà de cette mythologie du divorce, qu'en disent les chiffres?
Eh bien non, les femmes ne divorcent pas par vanité. En réalité, elles sont les premières victimes financières. D'après l'INSEE, le niveau de vie d'une femme suite à son divorce chute de 19%. Un chiffre saisissant quand on réalise que chez les hommes, on ne parle que de 2,5%. Pour ne rien arranger, 20% des femmes tombent sous le seuil de pauvreté contre seulement 8% des hommes. Alors quand Euripide écrivait que le divorce n'est pas un honneur pour la femme, c'est plus qu'un euphémisme. Car choisir le divorce, pour une femme, c'est avoir le courage de se lancer dans l'inconnu. L'inconnu financier. La peur de devoir sauter des repas ou de se priver de sortie, comme un adolescent puni. Pour ce qui est de l'argument des pensions alimentaires, eh bien un tiers des mères ne les reçoivent tout simplement pas. Le parent prend la décision de ne pas les verser et souvent, la bataille juridique est trop dense pour trouver l'envie d'aller la réclamer. Alors, bien sûr, certaines femmes arrivent à tirer profit de ces situations. Mais il est important d'insister sur la minorité que ces dernières représentent. Car, ne l'oublions pas, 42% des femmes touchent un revenu inférieur à leur conjoint avant même la séparation, malgré bien sûr un travail égal. En comparaison, une célibataire ne touchera que 9% de moins que ses collègues masculins. Un chiffre tout de même révoltant, je vous l'accorde. Cet écart appuie sans doute le fait que la vie de famille, c'est synonyme de sacrifice. Beaucoup de mes consoeurs choisissent de sacrifier un temps plein afin de s'occuper de leur bambin. Alors quand on sait que 72% des femmes divorcées se retrouvent avec la garde exclusive des enfants, on s'inquiète quant à leur santé mentale. Leur sacrifice est encore plus important et les heures supplémentaires sont en permanence refusées, accompagnées donc de salaires à nouveau diminués. Un sacrifice que très peu d'hommes reproduiraient. Alors non, nos mères, nos sœurs, nos tantes ne quittent pas le foyer familial par vanité. Elles le font par courage et volonté de liberté. Et nous ne pouvons que les en féliciter.
Merci Alia Trabelsi pour cette première chronique. Il est 7h35 sur 99.5 FM. Place à un petit aparté musical. Cela fait des semaines que certaines l'attendent. Tout de suite, 10 ans de nous de Ben Mazué.
Doit être la 700 000e fois que je te vois t'habiller, choisir cette culotte ou celle-là, que je te vois t'abîmer. On n'a pas vraiment vieilli parce qu'on se sent capable de tout encore, mais on a gagné quelques plis sur le corps. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, et même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. On se l'est tellement dit que ce serait pour longtemps, que finalement 10 piges ça paraît pas tant. C'est pas si épatant, ça rafraîchit l'odyssée, même si l'on contemple plus que l'on agit, plus que l'on réussit, on essaie, on essaie. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Oh mais si à l'avenir on passe à côté, si on n'exige pas au moins aussi bien que ce qui vient de se passer, moi j'ai encore nos débuts en mémoire, nos espoirs, et je rougis pas de ce qu'on est devenu. 2 enfants plus tard.
C'était 10 ans de nous de Ben Mazuet, vous êtes toujours sur Good Morning Tour, il est 7h38. Place au deuxième flash info de la journée avec Théo Leur, rebonjour.
Rebonjour Baptiste et rebonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi 25 octobre 2024. Les recherches s'intensifient pour retrouver Santiago. Le nouveau-né prématuré a été enlevé lundi soir par ses parents dans une maternité à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ils ont ensuite fui en Belgique. Les enquêteurs français et belges sont extrêmement mobilisés et préoccupés par la santé et même la vie de Santiago, a déclaré hier le procureur de la République de Bobigny, Éric Mattey. S'adressant aux parents, il a lancé cet appel. S'ils m'entendent, ils doivent, pour le bien de leur bébé, le conduire à l'hôpital le plus proche. À l'Assemblée nationale, la gauche et le groupe présidentiel renoncent à certains amendements pour accélérer le débat. C'est ce que les forces politiques ont annoncé hier afin de pouvoir aller jusqu'au vote sur le texte déjà couperé pour le gouvernement Barnier. Le Nouveau Front Populaire renonce à 270 amendements, a annoncé le président de la commission des finances, Éric Coquerel, à l'AFP. De son côté, le groupe présidé par Gabriel Attal en supprime une centaine. Il reste quand même plus de 3000 amendements qui doivent être examinés et débattus avant ce soir. Un vote solennel est prévu mardi. Le ministre des Sports se sépare de son bras droit. Mediapart a annoncé hier la mise en retrait de Xavier Elbaz, maire de Villedieu-sur-Indre. L'édile est aussi le directeur de cabinet de Gilles Averoux, maire de Châteauroux, nommé ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en septembre dernier. L'article de Mediapart explique qu'en 2009, Xavier Elbaz aurait menacé un jeune sportif de diffuser des photos de lui qualifiées, je cite, « d'échanges intimes ». Il ne confirme ni ne nie les faits, mais se met en retrait de ses fonctions. Le Hamas se dit prêt à une trêve si Israël s'engage à un cessez-le-feu. Une délégation du Hamas a discuté hier au Caire d'idées et de propositions pour la reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu et d'un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. De son côté, Israël a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza. Les dernières négociations indirectes sous l'égide des médiateurs que sont le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont eu lieu en août dernier. Elles s'étaient soldées par un échec comme de nombreuses tentatives précédentes. Le président américain va présenter des excuses présidentielles aux Amérindiens. Je cite « J'y vais pour faire quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps, présenter des excuses officielles aux nations indiennes pour la façon dont nous avons traité leurs enfants pendant tant d'années », a déclaré hier Joe Biden. Pendant plus d'un siècle, de nombreux enfants amérindiens ont été placés dans des pensionnats. Le but était d'effacer leur culture, leur langue et leur identité afin de les assimiler. Beaucoup d'enfants y ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles, selon un récent rapport gouvernemental.
Merci Théo Leur, il est 7h41 sur Radio Campus Tours et vous êtes toujours dans Good Morning Tours.
Et Baptiste Villermé, à vous maintenant de prendre le micro pour une chronique. Vous allez nous parler de la place de la radio et de la voix dans notre quotidien.
Posé sur un meuble du salon, de la cuisine ou dans la salle de bain, placé au centre du tableau de bord d'une voiture ou maintenant devenu une simple application sur un téléphone, la radio est partout, ancrée dans notre quotidien et dans nos habitudes. D'un simple bouton ou d'un simple clic, les auditeurs ont accès à l'univers de la bande FM et à des dizaines et des dizaines de stations. L'histoire d'amour entre la France et la radio ne date pas d'hier. D'abord utilisée uniquement pour des communications militaires, elle va par la suite changer de registre, place à l'information, à la musique et au divertissement. Une récente étude publiée par La Croix indique que presque un Français sur deux écoute la radio au moins une fois par jour. La radio fait partie de la vie des Français. Ils l'ont écoutée en moyenne 157 minutes en 2022, selon la dernière étude Médiamétrie. Bien qu'important, ce chiffre est en diminution constante face à l'émergence des nouveaux médias. La radio, c'est aussi parler aux auditeurs seulement à l'aide du son, arriver à transmettre des émotions à la seule force de sa voix, réussir à expliciter une idée sans l'image. Là où la télévision joue sur les deux sens, la radio, elle, n'a rien pour se cacher. Prenez l'exemple des commentateurs sportifs sur RMC. À travers le poste radio, ils arrivent à nous faire vivre des matchs comme si l'on était sur place, en tribune, au plus proche de l'action. L'une de ces voix, c'est celle de Jeannot Rességuet, à l'antenne sur RMC depuis les années 80. En 2018, pour célébrer les 30 ans de longévité au micro, Radio Monte Carlo a compilé ses moments cultes. Entre explosions de joie, pleurs, hurlements ou consternation, extrait tout en douceur, accrochez-vous bien.
La dernière occasion pour les Irlandais, c'est de la mettre, c'est la qualification, ça va de l'autre côté, c'est sauvé avec le ballon dans les bras, Hugo Lloris, garde-le ce ballon, dors avec s'il faut, mais c'est ce ballon qui va peut-être te préserver de quelques secondes supplémentaires, allez. Le gardien de Lyon pour aller à la Coupe du Monde.
Oh l'attentat,
c'est pas possible,
quel attentat de la part de Sambonta, et oui, le carton jaune, ça suffit,
Ribéry tout seul, Ribéry qui va projeter, Ribéry qui va égaliser.
Oui, le sport sur les ondes, c'est des émotions, mais au départ, ce n'était pas du tout le but recherché de la radio. Revenons en arrière pour faire un petit point historique. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, une fois la paix retrouvée, l'État français décide de prendre en main le secteur de la radio. Il met sur pied des radios d'État, mais permet dans le même temps le développement de radios privées. C'est grâce à cette politique que la France entre dans l'ère radiophonique. Si je vous dis 324 mètres, à quoi pensez-vous ? Eh oui, c'est la taille de la Tour Eiffel. Elle nous voit, elle nous regarde de tout là-haut et veille sur Paris. Mais ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'elle nous a permis d'entendre. Au lieu de la radio, c'est là qu'a été émise la toute première émission de radio en France. Nous étions le 24 décembre 1921 sur Radio Tour Eiffel. Mais avant tout ça, la radio, c'est surtout de l'intime. La voix est intime. C'est ce que l'on possède de plus profond et qui définit notre identité. C'est difficile d'apprécier nos voix, parfois si singulières. Les critiques de la société ne font rien pour nous aider à nous sentir à notre place. Tantôt trop grave pour les filles, tantôt trop aiguë pour les garçons. On se retrouve vite mis dans des cases si notre voix ou notre phrasé sortent du lot et viennent déranger les mœurs. Pourtant, nous avons besoin de ces voix si particulières pour nous sentir représentés, pour montrer qu'il est possible de vivre au grand jour et de faire carrière en l'utilisant comme un atout.
Mais pourquoi vous nous parlez de tout ça de bon matin en ce vendredi 25 octobre 2024 ?
Eh bien, Théo Leur, parce que le monde de la radio associative est en péril. Le gouvernement tente d'attaquer le secteur avec une violente coupe budgétaire. Le projet de loi de finances 2025 veut réduire de 35%, soit 10 millions d'euros, le FSER. En toutes lettres, le fonds de soutien de l'expression radiophonique. Ce fonds, c'est en moyenne 40% du budget de fonctionnement des 770 radios associatives françaises. Regroupées sous l'association Les Locales, avec ses organisations représentatives, elles demandent, dans un communiqué, au gouvernement de revoir leur position. Elles indiquent que cette mesure devrait, dans un premier temps, affaiblir les radios et, à moyen terme, elle signifiera la disparition de nombreuses d'entre elles. Au niveau local, à Tours, Radio Campus a aussi réagi pour alerter sur la situation. Frédéric Quintero, le coprésident, nous explique les raisons de son inquiétude.
Car c'est le risque de marchandiser l'innovation culturelle, le secteur des métiers du journalisme, le secteur de l'éducation aux médias et à l'information. C'est aussi la certitude de perdre des emplois, de réduire les voix des territoires et les initiatives locales.
Alors, pour tous les arguments cités dans cette chronique, pour la survie de la radio associative et pour la préservation des acquis sociaux, portez haut et fort vos voix et vos convictions et ne laissez jamais, au grand jamais, personne vous dire de vous taire. Pour que la radio vive, aujourd'hui, demain et pour toujours, vive la radio.
Et oui, vive la radio. Merci beaucoup, Baptiste Villarmé. Il est 7h46, place à la musique avec les Red Hot Chili Peppers et leur titre Can't Stop.
From engineering, feel no need for any interfering. Your image language in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
C'était Can't Stop des Red Hot Chili Peppers, pardon. Il est 7h51, vous êtes toujours dans Good Morning Tour. Lou Attar et David Alias sont en studio avec nous et ils reçoivent aujourd'hui Jean-Rémy Baudot pour l'interview politique.
Les journalistes de l'Association de la presse sont en colère contre l'exécutif après qu'Emmanuel Macron a fustigé jeudi dernier leur manque de professionnalisme à la suite de la publication de propos qu'il a tenus au sujet de la création d'Israël au cours d'un conseil des ministres. Nous recevons ce matin pour en parler Jean-Rémy Baudot, journaliste et président de l'Association de la presse présidentielle. Jean-Rémy Baudot, bonjour.
Vous m'entendez ? Bonjour David, bonjour à tous.
Bonjour Jean-Rémy. L'Association de la presse présidentielle a répondu à l'exécutif mercredi par l'intermédiaire de Thomas Després, un des représentants de l'association. C'est quoi ? C'était important d'éteindre rapidement l'incendie ?
Alors en fait, on avait déjà réagi vraiment quelques minutes quasiment après qu'Emmanuel Macron ait tenu ses propos à Bruxelles. Il faut juste le remettre dans le contexte. Le Conseil des ministres avait eu lieu mardi de la semaine d'avant, de la semaine dernière. Dans l'après-midi, cette phrase que Emmanuel Macron a prononcée devant ses ministres est sortie par l'une de nos consoeurs, par Le Parisien, très vite repris, et pas seulement repris en fait, confirmé, validé, recoupé par d'autres médias qui l'ont donc publié cette information. Et en fait, pendant deux jours, il n'y a eu absolument aucune réponse de l'Élysée qui n'a ni infirmé, ni confirmé, ni même tenté d'amender un propos. Et jusqu'à cette sortie d'Emmanuel Macron en ouverture d'une conférence de presse à Bruxelles, alors que ça n'était pas tellement le sujet de la conférence de presse. Et il fait une salve assez rude à l'encontre des journalistes, de leur professionnalisme, de leur rigueur, etc. Alors il faut un peu comprendre le sous-titre, au-delà du fait que nous, effectivement, c'était important pour nous de réagir, parce qu'en fait, on ne peut pas laisser le président mettre en cause comme ça la rigueur journalistique. Et par ailleurs, il y a une phrase qu'il prononce qui est finalement assez grave. Il dit « Tout ce qui ne sort pas, tout ce qui n'est pas dans un communiqué ou dans une conférence de presse n'existe pas. » Et en fait, c'est surtout ce point-là, en réalité, qui nous pose un certain nombre de questions. Après, on n'est pas dupes. Tout ceci est un coup de pression un peu à notre destination, la presse, mais surtout en fait à destination des ministres qui étaient autour de la table, qui ne sont pas, comme on le sait, donc des ministres tous macronistes. Et donc, c'était aussi une manière de mettre au pas, ou tenter de mettre au pas les ministres qui étaient autour de la table des conseils des ministres, et donc de leur dire, vous ne parlez pas, ce qui se dit autour du conseil des ministres ne se répète pas.
D'accord, mais qu'est-ce que vous attendez du président de la République ? Des excuses ? Pas grand-chose ?
Non, on n'attend pas des excuses de la part du président. On attend, et c'est aussi pour ça qu'on a refait un communiqué hier qui a été lu donc, par mon confrère de RTL en Conseil des ministres. On attend que l'Élysée laisse les journalistes travailler et ne remette pas en cause les méthodes journalistiques. Et surtout, s'il y a des erreurs qui sont faites, qu'on les dise. Au contraire, que la presse reconnaisse quand il y a des erreurs. Là, en l'occurrence, cette phrase, elle est confirmée, recoupée par plusieurs participants au Conseil des ministres. Elle n'est pas infirmée par l'Élysée. Et ensuite, on se prend un scud. Donc forcément, on réagit. Non, on s'attend, en fait, tout ça est un peu à remettre dans un contexte aussi, qui est que depuis quelques temps, il y a une volonté de l'Élysée de parfois, pas systématiquement, mais parfois, réduire la présence de la presse autour du président. Et donc, nous, notre rôle en tant qu'association, c'est de pousser et de nous battre aussi pour que les journalistes aient un accès le plus large possible et le plus équilibré possible et égal possible autour du président.
C'est depuis Emmanuel Macron, cette réduction de l'accès à la presse ?
Plutôt, en réalité, il y a surtout un tournant qui est le tournant du Covid. En fait, il y a un peu un historique avec Emmanuel Macron, parce que si vous vous souvenez bien, Emmanuel Macron, quand il arrive, il dit qu'il enlève, il souhaite enlever la salle de presse des journalistes qui donne dans la cour de l'Élysée. Ce qui était déjà un peu un casus belli. On a réussi, en faisant pression, à ce que ça n'arrive pas. Elle a malgré tout été réduite des deux tiers. Donc maintenant, c'est un peu plus un placard qu'une vraie grande salle de presse. Et après, il y a eu un tournant. Je disais qu'il y a un tournant parce que le Covid, en fait, a été un moment où on a forcément, pour des raisons sanitaires, réduit la présence des journalistes autour du président. Donc on fonctionnait vraiment à travers ce qu'on appelle des pools, donc des journalistes qui travaillaient et qui redonnaient les informations aux autres. Et ce sont des pratiques qui sont qui se sont un peu installés, dirons-nous, et nous, donc, au fur et à mesure, on a poussé pour que, on arrête d'avoir des jauges autour du président, et que, voilà. Et donc, ce tournant-là a donné quelques mauvaises habitudes, et donc, nous, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de rééquilibrer, et en fait, parce que derrière ça, il faut bien comprendre que c'est la circulation d'informations qui est en cause, c'est l'accès aussi du grand public à ce qui se passe autour du président, et donc, il y a un vrai enjeu de transparence démocratique à travers le fait que la presse puisse suivre ce que fait le président au quotidien.
Mais comment est-ce qu'il a justifié cette volonté, par exemple, de fermer la salle de presse au Palais Bourbon ?
Alors, je ne me souviens plus exactement de l'argument, mais derrière ça, l'argument officiel en tout cas, derrière ça, il y a la volonté quand même d'avoir un peu les mains libres, ce qui n'est pas... il ne faut pas y voir forcément un dessin machiavélique, etc. Mais il y a l'idée que finalement, la presse n'a pas à être n'a pas à être aussi proche du pouvoir, proche au sens, là, en l'occurrence, physique, c'est-à-dire vraiment de voir ce qui se passe dans la cour de l'Élysée. On note par ailleurs qu'il y a une volonté aussi, très souvent, de donner parfois une place très importante à la communication et aux équipes de communication du président, et que la presse passe souvent un peu après les équipes de communication. Et ça, pour nous, c'est absolument pas acceptable. Donc c'est aussi là-dessus qu'on se bat.
Jean-Rémy Baudot, on voulait également revenir, profiter de votre présence pour revenir sur les propos de Thomas Desprez au nom de l'association, qui déclare, je cite, « Notre travail ne peut se résumer à reprendre les déclarations officielles. Il est aussi et surtout de permettre aux citoyens de savoir ce qui se passe une fois les micros coupés. » C'est aussi pour les publics que vous menez ce combat ?
Mais évidemment, parce qu'en fait, c'est pas une lutte corporatiste. C'est ça qui est compliqué à faire passer au sein de l'opinion, c'est que c'est pas une lutte corporatiste des journalistes qui voudraient garder des privilèges, etc. C'est que en fait, derrière le travail des journalistes, le fait l'accès que les journalistes vont avoir et aussi le fait de respecter qu'ils puissent chercher que si on leur ferme la porte, ils essaient de passer par la fenêtre pour avoir l'info en fait. Et donc cette transparence là, c'est une transparence démocratique, c'est-à-dire que si on permet pas aux gens de savoir ce qui se passe une fois que les micros sont coupés, on est dans une presse officielle, on est dans une information qui est contrôlée par l'État, et dans une démocratie ça ne peut pas se passer comme ça. Alors oui, on est là aussi pour reprendre ce que dit le président, les ministres, etc. Ça fait partie de notre travail, mais notre travail c'est aussi de confronter ça, et d'aller voir ce qui se passe un peu autour pour que les citoyens puissent se faire une opinion de ce qui se passe réellement dans le pays.
Vous avez parlé des micros coupés. Pour que les auditeurs comprennent bien, il y a le off aussi en politique. Comment est-ce qu'on gère le off ?
Alors effectivement, le off, c'est la pratique qui consiste en fait, quand on rencontre des hommes et des femmes politiques, de ne pas forcément les citer directement. Alors il y a deux manières de voir les choses. Soit on voit ça d'une manière d'un petit milieu qui veut pas, enfin vous voyez, il y a derrière cette notion de off, il y a un peu ce truc de dire c'est secret et on veut pas dire. C'est aussi une manière de protéger ses sources, c'est-à-dire que quand moi si dans un échange avec un conseiller, avec un ministre, il me dit une information et que je la reprends sans forcément dire que c'est un tel ou une telle qui m'a donné cette info, que ensuite je vais recouper par ailleurs, c'est toujours évidemment important parce qu'on peut aussi être manipulé, donc c'est un travail très important de reconfirmer, de recouper ces informations. C'est vraiment la base du journalisme. Mais c'est aussi une forme de protection des sources que de dire je ne suis pas obligé de dire que c'est tel ministre qui me l'a dit. Par contre, il y a un ministre qui tient ce type de propos et c'est important. Et on pense que c'est important de le donner à la connaissance du grand public.
Très bien, merci Jean-Rémy Baudot. Je rappelle juste que vous êtes président depuis cette année de l'Association de la presse présidentielle. Merci beaucoup d'avoir été
merci,
ce matin. Et je redonne la parole à Baptiste.
Il est 7h59 et 46 secondes. Vous êtes toujours sur Good Morning Tour. Et on s'approche malheureusement déjà de la fin de cette matinale. Une dernière chronique, est-ce que ça vous dit ? Marie-Camille Chauvet est sortie de son lit pour nous parler sur un air de légèreté de street art.
Saviez-vous que le street art tourangeau était reconnu ? Non, eh bien c'est normal, puisqu'il ne l'est pas. Mais il mériterait peut-être de l'être. Je vais vous parler du street art donc, parce que c'est le sujet du reportage que j'ai réalisé avec une camarade cette semaine. Nous, en spécialité télé, on a fait du terrain, parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir Jean-Rémy Baudot, même si je suis sûre que ça lui aurait rappelé des souvenirs du temps où il était encore chez BFM, par exemple. D'ailleurs, je me demande qui serait notre Jean-Rémy Baudot à nous, en télé. Et je me dis que ce serait peut-être simplement Théo Leur, mon seul camarade capable de vous mettre un tunnel sur les élections américaines à 7h du matin, avec la cravate parfaitement nouée autour du cou, alors que vous qui nous écoutez, vous avez les yeux encore tout collés de sommeil. Théo, lui, a été vaillant et a justement fait un sujet télé sur sa présidentielle américaine à lui, son petit tourbillon politique tourangeau, les élections étudiantes. Et notre point commun à tous les deux avec Théo, durant ces deux jours de tournage, c'est d'avoir fait des gros plans sur des tags de la ville. Bon, à l'exception près que sur les siens, il y avait écrit « Mort aux fachos » ou « La France aux Français ». Pas super sympa. Donc, pour apporter un peu de bonne humeur dans cette matinale, je vais vous parler du street art. Moi, quand je pense au street art, je pense à Banksy. Et surtout, à son œuvre la plus emblématique, « La petite fille au ballon ». Et à mon œuvre la plus emblématique, une reproduction de « La petite fille au ballon » que j'ai réalisée durant un voyage scolaire à Bristol, quand j'étais en quatrième, d'une monstruosité telle que même la patte à fixe qui la retenait s'est désolidarisée. Si j'ai fait mes premières œuvres à Bristol, au Royaume-Uni, ce n'est pas anodin. Bristol est au street art ce que Tours est à la rillette, c'est vous dire. Bristol, c'est vraiment la capitale du street art, grâce à Banksy qui a fait ses débuts là-bas, armé de ses pochoirs et de ses bombes de peinture. Et moi, comme je pensais qu'on ne pouvait pas être bon à la fois en rillette et en street art, j'étais loin de me douter que Tours regorgeait d'œuvres de rue. Eh bien, je me trompais. Lors de notre reportage, nous avons suivi pendant plus d'une heure et demie une guide qui nous a trimballés dans tous les spots de street art de la ville. On a commencé par un parking souterrain, et j'étais un peu sceptique, parce que quand je rentre dans un parking souterrain, je me bouche le nez pour pas sentir l'odeur de pipi omniprésente, et quand je veux en sortir, je dois casser mon PEL pour que la barrière s'ouvre et me laisse passer avec ma voiture. Mais là, derrière ma caméra, j'ai été bluffée. Partout sur les murs, des petits dessins discrets, des courbes alambiquées, des fleurs, des femmes, des oiseaux, des fresques géantes, des couleurs qui claquent et des messages politiques qui brusquent. C'est pas commun d'aller chercher sa voiture après une virée shopping aux Galeries Lafayette et de se retrouver face à des murs recouverts de caricatures qui dénoncent la surconsommation. De retour à la civilisation, quelques mètres plus haut, nous avons contemplé les œuvres pleines d'intelligence de Mi Famosa. Mi Famosa, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais vous avez sûrement déjà vu ses œuvres. C'est un street artiste qui réalise des petites illustrations à l'aide de carreaux de mosaïque. Il a pour inspiration le nom des rues, inscrit sur des plaques. Par exemple, proche de celle de la rue de Jérusalem, il y a les trois livres saints, une Torah, une Bible et un Coran. C'est simple, sans prétention, c'est de l'ordre du symbole, ça ne tient pas à grand-chose, mais ça fait du bien, je trouve. Et justement, il a commencé ses projets lorsque sa grand-mère était malade, pour colorer son quotidien, pour lui faire du bien. Moi aussi, ça a un peu changé mon quotidien depuis ce reportage, à tel point qu'hier matin, en prenant le bus, j'ai croisé le regard d'une femme. Je ne l'avais jamais vue, mais elle m'observait comme tous les matins, de son regard fixe et profond, immobile dans sa posture élégante, étalée de tout son long contre un compteur électrique. Sur la ligne 5, je suis certaine que l'on est nombreux à ne jamais y avoir à prêter attention, alors qu'elle nous contemple à mesure que la ville se réveille et nous protège quand on rentre tard, la nuit, alors que Tours est endormie. Quand je l'ai vue, j'ai pensé qu'encore, je n'étais pas tout à fait adulte, et qu'une fois de plus, on avait dû me prendre la main, comme à une enfant, et m'ouvrir les yeux. Tout ça pour me mettre sur la bonne voie, et que je découvre ce que les murs nous dévoilent quand ils passent sous la main des artistes de ma ville.
Merci Marie-Camille. Chauvet, pour ces mots, vous devriez revenir plus souvent. Il est déjà 8h03 sur Radio Campus Tours, et c'est déjà la fin de cette sixième édition de Good Morning Tours. Je salue notre équipe du jour et tous ceux qui se sont levés ce matin. Théo Leur, Alia Trabelsi, David Alias, Lou Attar, Marie-Camille Chauvet, Léo Segura, Gabriel Ziar, Mathis Maudet, il y a du monde, Angelina Richard, Emma Sicli et bien sûr Jean-Rémy Baudot. Pensez également à Jules Frécon et son empreinte carbone qui nous écoute depuis l'aéroport. Pour ma part, je quitte l'antenne pour rejoindre les ondes de RCF Alsace jusqu'à la fin de l'année civile. Je vous retrouve début janvier, promis. Vous pouvez retrouver mes camarades dès vendredi prochain pour une nouvelle matinale, toujours sur 99.5 FM. Prenez soin de vous, agréable journée à toutes et à tous.